atteinte importante, mais qu'on est à l'heure actuelle beaucoup trop, on est beaucoup trop dépendant de la vidéo avec tout ce qui tourne sur YouTube, et que je pense qu'on est, on ne va pas assez vers la diversification des médias et vers les contenus eux-mêmes et vers les rapports qu'il peut y avoir entre, entre le spectacle, les acteurs, la salle, le lieu d'accueil, et que je pense qu'il y a une richesse de contenu à exploiter en dehors de la vidéo, et qu'il y a quelque chose qui, pour chaque théâtre, pour chaque salle, il y a des histoires à raconter qui ne demandent pas forcément de gros moyens techniques, mais qui demandent d'avoir effectivement un suivi avec les équipes et d'avoir cette vision en permanence de ce qu'on veut faire partager, mais pas de vouloir reproduire sur le web ce qui se passe dans la salle. Je crois que c'est là l'erreur principale. Après, il y a d'autres choses qui sont du domaine même du spectacle, où il y a des choses très intéressantes à faire dans les liens entre le spectacle et le web, mais ça, c'est autre chose. On n'est plus dans le domaine de l'accueil, mais du spectacle humain.
C'est juste une réponse. C'est vrai que sur la vidéo, le problème qu'on a, c'est qu'on est évidemment comparé au cinéma. Voilà, un jeu de comédien est comparé à un jeu de comédien au cinéma, et c'est vrai qu'on a... On n'a pas les moyens de ces captations-là, sauf quand, de temps en temps, en effet, il y a des captations au Festival d'Avignon avec énormément d'équipes, avec des choses très très bien faites, ou sur des concerts. Mais c'est vrai qu'autrement, on va assez vite, en termes de son, en termes d'image, et du coup, ça ne va pas souffrir la comparaison, et ça va dévaloriser finalement le travail théâtral. Et donc, en effet, moi, je suis d'accord qu'il faudrait inventer, par le texte, par d'autres choses.
Un truc comme ça. Pourquoi il faut absolument comparer les standards de ce type-là? Parce que là moi, je renvoie à l'expérience du monde de la danse contemporaine avec Numéridance, donc ce qu'a lancé Laurent Sébillot et j'oublie son nom, qui était à la Maison de la Danse de Lyon, c'est de la captation de caméras à fond de salle. Peut-être de la captation de répétition d'un certain nombre de choses qui sont devenues notamment pour les spectacles de Bagdad, enfin toute la séquence des chorégraphes morts du sida dans les années 80, qui sont devenus les dernières traces de leurs choses, qui tournent sur YouTube et qui surtout ont été rassemblées dans Numéridance, qui est une très très belle initiative du monde de la danse contemporaine pour rassembler comme ça son patrimoine, ces choses, dans lesquelles il y a des formats de captation qui franchement ne sont pas de qualité. Moi je me demande si ça ne fait pas justement partie, c'était le point que j'allais tout à l'heure, de l'obsession du contrôle des formes.
Après, nous, sur les présentations de saison, moi je travaille dans un théâtre où la programmation est très variée entre la musique, la danse, le théâtre, etc. Et clairement, les vidéos de danse sont en effet de meilleure qualité que les vidéos de théâtre, parce que déjà on squeeze la question du son. Et qu'on peut aussi être plus loin sur une scène de danse et avoir la vue d'ensemble, alors que sur un comédien...
Moi je pensais, alors c'est vrai que c'est pas un nouveau public, mais je pensais à toutes ces captations de répétitions, parce que maintenant on ouvre les répétitions, ça devient même un spectacle en soi, pour certains, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans une autre forme du rapport au spectacle vivant, qui est sa préparation, sa répétition, sa captation dans des situations qui ne sont pas cinématographiques, qui constituent pas des produits d'appel, mais des éléments d'information qu'on peut... Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas d'exemple comme ça.
Pour la sortie d'un album, on voit les répétitions, la phase d'écriture. Et donc maintenant, tout le monde fait ça, et ça arrive beaucoup dans le théâtre, dans l'opéra. Donc c'est des petits bonus qui sont là. On a besoin, ça devient obligatoire comme un DVD. S'il n'y a pas de bonus, c'est intéressant. Et le problème, c'est à force de voir, on a l'impression, moi en tant que spectateur, d'avoir vu les extraits, la préparation, ben, je connais le spectacle. Et souvent, ça m'est arrivé ce week-end d'aller voir un spectacle avec une mouette, assez connue. J'avais tellement vu de bonus que quand j'ai vu le spectacle, je me suis dit, mais ah oui, je sais déjà tout ça. Et ça a un peu, voilà, j'ai perdu le spectacle, m'a un peu déçu par rapport à tout ce que je savais. Et je me pose la question du danger de trop en donner, finalement, on perd de la valeur, entre guillemets.
Il y a la solution aussi en cas de coproduction, parce qu'on aussi, on fait de la coproduction, c'est de... nous, on avait fait pour l'ouverture de saison, on avait interviewé les deux gros projets qu'on avait sur l'année, on avait interviewé les metteurs en scène pour qui parle du projet. L'étape de création n'avait pas encore débuté, mais c'est toujours intéressant d'avoir la parole de l'artiste aussi, qui parle du projet qui va passer, qui va être créé, qui va être en cours de création. On fait l'accueil en résidence, de prendre quelques photos aussi avec... voilà, pas trop dévoiler non plus, parce qu'en plus il y a des metteurs en scène des fois qui sont pas d'accord pour qu'on dévoile, pour qu'on déflore leur œuvre, mais de faire un peu monter le désir chez les, enfin nous c'est via Facebook, hein, via notre page Facebook. Et,
demander carrément aux équipes, aux comédiens, aux metteurs en scène de nous créer du contenu. Donc là, par exemple, je vois pour les particules élémentaires, Julien Gosselin a carrément voulu remettre en forme des textes de Houellebecq, il a préparé quelque chose avec son vidéaste, ils nous ont fait un rendu sur plusieurs capsules vidéo, enfin ils avaient envie de le faire en vidéo, et du coup ça va ressembler au spectacle parce que c'est l'univers du metteur en scène et des gens qui travaillent avec lui. Et du coup, ça nous fait comme ça une espèce de contenu un peu alternatif qui donne à voir encore autre chose, mais qui se rapproche forcément du spectacle. Et par exemple, avec Bob Wilson, on peut rien faire. On va quand même avoir des comédiens qui, eux, ont un potentiel, font des choses à côté. C'est un peu sur le CV, la carte supplémentaire bonus, et qui veulent aussi présenter des choses et nous donner des choses à voir qui vont se rapporter au spectacle. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé à chaque fois de montrer les répétitions. Ça peut être quelque chose à côté et qui va présenter le travail artistique. Mais comme c'est de la création de contenu, bah autant aller vers les créateurs eux-mêmes qui sont là, qui veulent aussi participer, je pense.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Parce que là, il y a deux acteurs différents. Il y a les institutions et puis les compagnies. Est-ce que finalement, ce n'est pas les compagnies qui sont les mieux à, je dis pas ça pour vous provoquer, mais les mieux à même de produire ce genre de choses que les enfin, est-ce que, ou alors est-ce que les lieux ont un... ne remplira jamais les salles, c'est absolument pas intéressant, mais il y en a plein, ça les intéresse pas du tout. Nous, en janvier, on a Jacques Balutin et Daniel Prévost. Je sais très bien que j'aurai pas de contenu, j'aurai rien à l'avance, parce que tout ça, ça les intéresse pas. Donc nous, on va avoir deux spectacles dans l'année, donc du contenu, j'en ai un petit peu à l'avance, un petit peu, hein, je veux dire, après, on a une bande-annonce quand le spectacle a commencé, mais une fois que le spectacle a commencé, moi, j'ai plus rien. C'est-à-dire que prendre une photo, des coulisses et tout, si vous avez, on en a eu un artiste qui était jeune, donc qui était beaucoup sur Twitter, mais en 10 ans, c'est le premier qu'on a eu. Quoi. Parce qu'après, vous avez tout ça, ils ne savent pas ce que c'est, en fait. Ils ne voient pas leur intérêt. Alors qu'en plus, ils peuvent communiquer sur eux-mêmes, parce que beaucoup ne sont pas connus. Mais je veux dire, nous, on n'a pas de compagnie, de jeunes compagnies, on ne fait que du théâtre. Mais il y en a plein, ça les dépasse totalement.
Peut-être juste pour compléter sur une info très factuelle, je ne sais pas si vous avez lu dans la lettre du spectacle... il est mentionné que l'ADAMI en fait vient d'ouvrir un nouveau dispositif d'aide pour les compagnies, d'aide à la production d'un film promotionnel, donc plafonné à 4000 euros. Donc voilà, maintenant les compagnies peuvent faire appel à l'ADAMI pour créer leur propre teaser.
Dans le théâtre, il y a moins cette facilité. Et ensuite, le théâtre accueille une programmation éclectique, on accueille des humoristes. Et le fait de se dire, de savoir ce qu'il y a sur le plateau, ça ne fait pas venir les gens, c'est très bizarre parce que les humoristes, ils mettent leurs sketchs. Et en fait, les gens sont quand même là dans la salle. Donc, je trouve que parfois, il y a des paradoxes. Ça dépend effectivement des productions ou du genre. Mais cet effet de se dire, je ne vais pas donner à voir ce qu'il va y avoir sur le plateau, je ne suis pas sûre que ce soit... que ça fait dévoiler les choses et que les gens
aient... J'avais juste une petite question qui rebondit un peu sur une remarque qui a été faite tout à l'heure sur la nécessité du travail entre entre les théâtres et les compagnies qu'elles accueillent. Et c'est de savoir si cette aide de la DAMI, est-ce qu'elle est pour les compagnies uniquement?
Elle doit être
ou
absolument portée par les compagnies. Ouais.
Mais ça peut se, mais c'est, il est tout à fait envisageable que ça se fasse en partenariat avec...
Mais la compagnie doit être porteuse du projet et majoritaire.